Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Emma et nous sommes le jeudi 28 novembre 2019 avec Serena, qu'il y a en studio aujourd'hui avec nous.
Elena.
Ah bah ouais.
Et Julien.
Ouais.
Et à Baptiste.
Oui.
Aiden.
Et le meilleur de tous les temps. Même pas besoin de dire son nom, Flavio.
Et le meilleur de la radio, Flavio. Alors, aujourd'hui en fait, on est hyper content de recevoir avec nous Rosemary Stanley. Bonjour.
Bonjour. Merci de me recevoir.
Merci d'être venue, on est vraiment ravis de t'accueillir. Je vais présenter un petit peu en fait, ton parcours, qui est une chanteuse franco-américaine. Pour ceux qui la connaissent, qui a fait partie du groupe Moriarty, et notamment avec la chanson Jimmy qu'on a écoutée et qu'on connaît bien. Mais aussi, il faut savoir qu'elle mène plein d'autres projets en parallèle, et notamment celui en fait, de participer au spectacle qui est monté par Macha Makeyev à la Criée, et qui s'appelle Lewis versus Alice, c'est-à-dire donc Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles. Juste pour situer aussi un petit peu ton parcours plus jeune, j'ai lu quelque part en tout cas que tu avais passé tes vacances d'enfance en Bretagne, chez tes grands-parents maternels, et que ton père était musicien de folk américain et que c'est lui qui t'a initié au chant pendant ton enfance. Tu as étudié les arts plastiques pendant un temps et tu es aussi entré au conservatoire d'arrondissement à Paris pour y travailler le chant lyrique. Donc,
bien renseigné.
Est-ce que voilà, on a un départ en fait déjà de parcours qui est là, mais on est donc ici et on est ravis de t'accueillir pour pouvoir te poser plein de questions justement sur à la fois ton adolescence, ton parcours musical et aussi un petit peu parler quand même de la pièce que nous allons voir la semaine prochaine et on en est ravis. Donc on a le grand privilège de te recevoir avant d'aller voir la pièce, ça c'est la classe. Baptiste, grand sourire. Alors, on va tout d'abord commencer par une chanson avant d'en savoir plus sur toi. On va s'écouter pour commencer Drifting Soul, le morceau musical en tout cas choisi par Aidan. Tu veux nous en dire quelques mots rapides ?
J'adore ce thème. Genre, il est arrivé comme ça en plein milieu du jeu.
Oui, parce qu'il faut savoir qu'Aidan programme donc systématiquement des thèmes de jeux vidéo, il faut le savoir, qui parfois sont en japonais, parfois pas.
Ouais, ça dépend. Animé, un peu jeux vidéo.
Ou animé, exact.
Voilà. Mais j'adore cette musique.
Ok, merci de la partager avec nous. On va l'écouter de ce pas. Donc, ça s'appelle Drifting Soul. Xenoblade, enfin faut le dire en anglais, en
Xenoblade
français.
Chronicles.
Xenoblade, ok, Chronicles. Allez, c'est parti, on écoute ça.
Out so far beyond what I can see. How far would I be walking till I reach the end of a path that's to be seen? I would keep thinking, questioning to myself.
Drifting Soul, Xenoblade Chronicles. Alors, je garde le fond musical parce que je respecte toujours les artistes, mais qu'en même temps, je veux aussi pouvoir respecter le temps de discussion qu'on a. Merci à Aidan pour ce choix. Alors, on va commencer avec la première question. Elena, c'est à toi que revient cet honneur.
Quel genre d'ado étiez-vous ?
Alors, j'ai eu une adolescence assez compliquée. J'étais assez problématique, adolescente, pour plein de raisons. D'abord, j'avais un foyer assez conflictuel. C'était très conflictuel à la maison. J'avais des parents qui s'entendaient, qui étaient souvent, très rarement d'accord entre eux. Voilà. Et ensuite, je pense que j'étais très, très introvertie, très timide. Ou alors très extravertie, et avec, par exemple, j'avais besoin de soupapes de décompression. Alors, j'ai fait vraiment beaucoup, pas mal de conneries avec, avec mes copines.
Ça arrive souvent, justement.
Voilà. je séchais les cours, j'allais sur les toits de l'école, j'ai fumé des joints, voilà, tout ça. J'ai fait du spiritisme.
Allez.
Voilà, bon. Et en fait, je cherchais mes limites, je crois. En fait, je cherchais mes limites. Et parallèlement, après, scolairement, c'est pas que j'étais pas scolaire. Enfin, c'était pas que j'étais pas bonne, parce que je suivais. J'ai jamais redoublé une classe. En fait, j'ai toujours fait un peu mon petit bonhomme de chemin. Mais le système éducatif scolaire me m'allait pas du tout. Le groupe. Ça me parlait pas, en fait, la classe, le fait, il y avait trop de gens, il y avait trop de monde, et je me sentais pas bien du tout en classe. J'étais pas à l'aise avec ça. Alors c'est bizarre parce que maintenant mon métier c'est de chanter devant des gens, c'est de passer devant des gens, des fois des milliers de personnes, et du coup c'est un peu contradictoire, mais et déjà à l'époque je chantais déjà aussi. Mais c'était pas la même chose. J'étais pas à l'aise en classe. J'avais l'impression d'être jugée, observée. J'avais pas l'impression d'être dans le moule, ni scolaire, ni des autres complètement. J'avais toujours l'impression d'être un peu en décalage. Pas toujours comprendre tout ce qu'on me demandait. Alors, il se trouve que je suis bilingue, je parle deux langues, et en fait, à un moment, on m'a dit que ça pouvait être une explication aussi, que le cerveau, en fait, parfois devait traduire aussi, parfois d'une langue à l'autre, ou mettait plus de temps. Mais en fait, c'est vrai qu'une fois que j'ai compris, une fois que je comprenais les choses, tout se passait bien, mais par contre, par moment, il me fallait un certain temps avant de comprendre les règles qu'on me demandait, même en mathématiques, une fois que j'avais compris, ça allait, mais il me fallait quand même un certain temps relire les choses. Voilà.
D'ailleurs, souvent, ce qu'on dit pour les enfants bilingues, quelles que soient les langues, c'est qu'ils parlent aussi en général plus tard que les autres.
Alors,
quand
moi, j'ai parlé très tôt. Moi.
Ah, d'accord.
J'ai tout fait très tôt, mais il y a eu un moment où, je sais pas, il y a eu une espèce de compensation ailleurs. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais du coup, j'étais plus en retrait, plus...
D'accord. Voilà. Mais non, mais merci déjà pour tous ces éléments de réponse, parce que c'est très touchant, je trouve. Et Baptiste a eu l'air de te faire réagir par rapport à l'école, notamment.
Oui, c'est vrai, moi aussi, je suis pas trop à l'aise avec les camarades. Donc du coup, ils m'ont placé en classe Ulysse, et il y a moins de monde.
Excuse-moi, je sais pas ce que c'est une classe Ulysse.
C'est des difficultés de l'apprentissage, et parce que j'ai parlé très tard. J'ai parlé à 10 ans, j'ai lu à 11 ans, et du coup, ça fait maintenant...
Comment ça t'as parlé à 10 ans ? De 0 à 10 ans, t'as pas parlé ?
Je disais pas un son.
C'est pas vrai.
Si.
Ça, c'est extrême. Enfin, c'est particulier, du coup, 10 ans, c'est beaucoup. Et à 11 ans, quoi ?
Et 11 ans, je savais lire.
Ah oui, d'accord. Et alors, donc ?
Au début, c'était compliqué, parce qu'en CE1, je parlais pas du tout.
Et ouais.
Quand elle me faisait passer au tableau, je disais rien, je comprenais rien, du coup, j'écrivais n'importe quoi. Et ça me saoulait.
Mmh. Ah oui, tu m'étonnes. Waouh ! Et ouais, du coup, forcément, ça fait des...
Mais moi, ça résonne, parce que mon frère a parlé très tard. Alors, il n'a pas parlé à 10 ans, mais moi, j'ai été élevée, quand j'étais plus petite, avec... Bref, ma nounou avait un enfant de mon âge qui était autiste et qui parlait pas, enfin qui s'exprimait, mais qui parlait pas. Et je pense que mon frère avait... je pense peut-être par imitation, ne parlait pas non plus. Il a parlé très tard, il a parlé autour de 3-4 ans. Et du coup, je pense qu'ils ont pensé peut-être qu'il avait un souci aussi. Enfin, pas un souci, mais bon, en tout cas, il parlait pas. Et puis quand il s'est mis à parler tout d'un coup, en fait, il a parlé, mais avec un vocabulaire que aucun des autres enfants de son âge n'avait. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout est sorti, quoi. Et c'est toujours quelqu'un qui a beaucoup de vocabulaire, qui te sort des mots. Mais j'ai besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce que tu me dis. Mais c'est pour dire que, en fait, je pense qu'il y a, ouais, il y a pas de,
il y a pas
un parcours qui ressemble à un autre, je crois. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Mm. Ça vous fait résonner, toi, Aidan, justement, là, par rapport à l'école, tout ça?
Moi, c'était plus l'impression d'être jugée à chaque fois par les autres membres de la classe. Hein.
C'est ça, je te voyais un peu aussi réagir.
Au collège, j'ai eu ça souvent et ça m'a pas aidé. Mais bon, à force, ça a pas trop changé, mais j'essaye de, comment dire, d'ignorer ça.
C'est-à-dire, est-ce que c'est ton ressenti ou est-ce qu'il y a des remarques des autres élèves?
Au collège, il y avait des remarques. D'accord. Maintenant, il y en a plus trop, on fait plus trop des remarques sur ça. Mais j'ai toujours l'impression d'être jugée. Du coup, j'essaye de me convaincre à chaque fois personne te jugerait. Pourquoi?
Absolument.
On te jugerait, ça, on s'en fout. Du coup, oui, ça m'a... Ça... À cause de ça, en fait, j'ai pas trop confiance en moi, souvent.
Bien sûr, ça affecte la confiance, ça déstabilise aussi. Tu devais te sentir assez déstabilisée, j'imagine.
Oui.
Et c'est bien de tenir bon maintenant et d'essayer de résister justement à ça.
Ouais.
Est-ce que toi, Rosemary, justement, tu sentais une forme de déstabilisation aussi, justement?
Oui. Alors, j'ai un exemple assez précis. Quand j'étais en terminale au lycée, donc j'avais 16 ou 17 ans, je ne sais plus, j'ai fait une dépression. Et je faisais des insomnies, je ne dormais pas la nuit. Et du coup, je faisais beaucoup de cauchemars et je faisais des insomnies. Et j'avais peur la nuit et je ne sais pas ce que je me racontais, mais en tout cas, j'entendais des bruits. Enfin bon, je n'étais pas bien, quoi. Je n'étais pas bien. Et donc, je n'arrivais pas à me lever le matin. Et parce que ce qui se passait, c'est que je ne dormais pas la nuit, mais je m'endormais, par exemple, je ne sais pas, une demi-heure avant que mon réveil sonne, quelque chose comme ça. Donc, l'horreur pour se lever le matin, aller en cours. Et puis, alors, souvent, ça commençait par le cours de philo, en plus, à 8h, à 8h15. Et j'arrivais à l'extrême limite. Je crois que j'arrivais en retard de 15h, 20 minutes. Alors, la conseillère d'éducation me laissait passer, mais vraiment, genre, in extremis. Alors, je passais, je rentrais. Et alors là, ce qui était horrible, c'était que c'était un lycée avec les portes de la classe étaient des vitres, en fait. Et du coup, je devais me pointer devant la vitre. Le prof me voyait et toute la classe me voyait.
Wow.
Donc, c'était l'horreur. Donc, j'arrivais en retard tous les matins et je me tapais la fiche devant toute la classe. Ouais. Et j'arrivais, évidemment, complètement échevelée, en m'excusant. Le prof me laissait toujours passer. Et avec un regard toujours bienveillant, il m'a dit « Allez-y, allez-y. » Il me disait « Allez-y, allez-y. »
C'est déjà pas mal.
Ouais, ça, c'était sympa. Donc, je rentrais, j'allais m'asseoir à ma place. Et à chaque fois... Il y en avait un pour me faire une remarque. T'as vu l'heure? Ah, encore? Ah, dis donc. Et puis qui se marre, évidemment, parce que, t'arrives en retard, t'es complètement. T'es juste pointable du doigt, quoi.
Grave.
Juste pointable du doigt.
Oui.
Bon, voilà.
Mais c'est passionnant tout ça. On va continuer avec ta question, Baptiste.
Est-ce que votre adolescence a eu un impact sur votre parcours professionnel?
Eh bien, je crois que oui. Parce que c'est le moment où j'ai fait plein de rencontres qui m'ont aidée après à... D'abord, sur un point de vue personnel, en fait, ça a été un moment quand même de lâchage de ballon, quand même.
Ah. Donc,
d'un côté, il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Et puis de l'autre côté, c'est le moment où je me suis plus marrée, je crois, avec mes copines et mes copains. J'avais besoin de dépenser, autrement. Et puis c'est le moment aussi où j'ai fait des rencontres, où j'ai commencé le chant classique, par exemple, où j'ai commencé mon premier groupe de rock. Et donc ça m'a porté aussi sur autre chose. C'est-à-dire qu'à l'école, et dans un certain cadre, il y avait des trucs qui n'allaient pas. Et puis, d'un autre côté, en fait, il y avait des choses qui marchaient. Et en fait, ça, c'est des rencontres que j'ai faites quand j'étais ado. Effectivement, quand j'étais ado. Et parmi ces rencontres-là, il y avait quand même la rencontre avec les Moriarty, parce qu'on s'est rencontrés. Mon premier groupe de blues, je l'ai monté quand j'avais 15 ans, avec l'harmoniciste de Moriarty. Donc, c'était il y a 25 ans.
Waouh! Voilà. Waouh! Non, mais c'est génial en même temps, parce que c'est aussi l'âge où toutes ces choses-là se passent. Donc, ouais. C'est vrai, les rencontres, les démarrages de projets. Et quand ces démarrages-là deviennent des projets après vraiment professionnels, c'est génial, parce que très souvent, c'est à l'adolescence aussi qu'on fait ses premiers groupes de rock.
C'est ça.
Mais ça ne dure pas derrière. Quoi.
Exactement. Et le truc assez marrant avec Moriarty, c'est que c'est au départ vraiment un groupe de copains de lycée. Donc moi, j'étais pas dedans au départ.
Je savais pas ça.
Non. Thomas, donc l'harmoniciste, et Arthur étaient des copains d'enfance. Et quand ils ont eu... ils étaient un peu plus vieux que moi, hein, mais 17, 18 ans, 19 ans, ils ont dit, allez, on va faire un groupe de blues. Ils savaient pas jouer vraiment de musique ni l'un ni l'autre. Ils ont appris ensemble, en fait. Ils ont appris ensemble et puis ça a grandi comme ça. Et puis moi, je les ai rencontrés, je sais pas... Bah, Thomas, je le connaissais, l'harmoniciste, puisqu'on travaillait ensemble. Et voilà, et en fait, ça
s'est
resté, en fait. Hein,
toi, tu avais genre quel âge quand tu les as...
Quand je les ai rencontrés, j'avais 15 ou 16 ans, j'avais 16 ans, mais eux existaient déjà, voilà, ils existaient déjà, et on s'est mis ensemble en 99, donc moi j'avais 20 ans, donc 5 ans plus tard. En fait, on est restés en contact,
d'accord.
On s'est fréquentés... on venait faire des featuring, voilà, on venait jouer sur les groupes des uns des autres, etc. Jusqu'au moment où on s'est mis vraiment ensemble. Et à partir du moment où on s'est mis ensemble, on a commencé à composer ensemble. Et eux, ils avaient déjà des chansons. Jimmy existait déjà, en fait, avant que j'arrive dans le groupe. Moi, je suis arrivée, en fait, la seule chose que j'ai faite sur Jimmy, c'est peut-être transformer la mélodie. C'est tout ce que j'ai fait.
Et apporter cette voix si magique.
Oui, mais...
Baptiste aussi est chanteur.
Ah
en
ouais
fait, ouais. Et du coup, je sais pas si ça te fait réagir d'entendre tout ça.
Oui, ça me fait vachement réagir.
Raconte.
C'est-à-dire de commencer à l'âge de 15 ans, c'est énorme. Et même plus tôt, c'est vachement bien. Et moi, j'ai deviné que j'avais une qualité de chant à l'âge de 12 ans.
Ouais.
Et parce qu'au début, je chantonnais. Je chantais pas vraiment. Mm-hmm. Mais c'est là où j'ai remarqué que j'avais une belle voix. Et du coup, là, je me suis entraîné. Et voilà.
C'est super.
C'est génial, j'adore.
Et qu'est-ce que tu chantes, du coup? Qu'est-ce que tu fais comme...
Moi, comme j'aime bien tout ce qui est anglais,
ouais,
musique anglaise, je chante mes favoris, genre de Jacob Lee, Ghost. Ou ça peut être français aussi, ça peut être Slimane, À fleur de toi.
D'accord. Donc plutôt des chanteurs à voix, en fait.
Ben ouais, j'ai l'impression. Et donc, tu portes ta voix,
oui,
dessus. Et t'as l'air plutôt confiant dans... C'est très touchant, je trouve, parce que t'as l'air, ouais, plutôt confiant dans ce domaine-là. C'est-à-dire de savoir que tu chantes bien et de savoir que t'as un potentiel. Et c'est pas évident quand on est, en général, même ado, on se dit souvent « Ouais, j'essaye, mais je suis pas trop sûre ». Non, toi, ça va. T'as l'air d'être confiant à ce niveau-là. Et du coup, de savoir que ça peut démarrer si jeune dans des groupes, est-ce que toi, ça te donnerait une envie pour plus tard?
Oui, ça me donne vachement une envie.
Ah, il faut que tu te fasses un groupe. Est-ce que t'as déjà un groupe?
Non. Mes potes sont pas trop musique, quoi.
Non, mais c'est pas grave. Enfin, faut que tu continues à cultiver ton truc à toi, tu vois.
C'est vrai.
Parce que tes potes, en fait, tu peux rencontrer des gens qui sont pas forcément tes potes au départ et qui vont s'intéresser aux mêmes choses que toi. Et puis, tes potes, tu peux les garder aussi parce que c'est tes potes et pas parce qu'ils font la même chose que toi, quoi.
Après, j'avais déjà chanté avec Clara, qui était au relais.
Oui, absolument.
En fait, c'était un soir. On était en HC et elle avait pris une guitare. Et au début, on est parti sur un délire. Elle chantait un truc, un morceau. Et moi, je chantais un autre morceau, mais différent. Et on essayait de faire ça. Et ça marchait. Et du coup, on avait une révélation en disant tiens, il faut qu'on chante tous les deux un jour. Peut-être, elle me dit oui, sûrement.
C'est beau, en tout cas, le moment a dû être génial.
Oui.
Alors à propos de chansons, justement, on va t'écouter. Rosemary, ce serait dans une reprise de Bird on the Wire de Leonard Cohen, qui est déjà une magnifique chanson au départ, avec Dom La Nena qui est
violoncelliste et chanteuse.
D'accord.
Voilà. En fait, c'est un morceau de Leonard Cohen que nous on trouve très beau et qu'on a repris et qui d'ailleurs on lui rend hommage dans le sens où on a appelé notre duo à toutes les deux la Bird on a Wire.
Ah.
Les oiseaux sur un fil. Voilà.
Ok, alors c'est parti, on écoute ça donc, Bird on the Wire, repris par Rosemary Stanley et Dom La Nena, c'est parti.
Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn anyone who reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. If I have been unkind, I hope you can just let it go.
Like a bird on a wire. Waouh, c'était trop beau. Merci beaucoup. Petit moment acoustique comme ça, super joli. Et déjà que la chanson de départ est hyper belle. Mais alors là, la reprise, on plane. Enfin, moi, je plane. Allez, on continue, Flavio, avec ta question. Aidan, excuse-moi. Aidan, avec ta question.
Est-ce que vos souvenirs d'adolescence inspirent votre univers d'artiste?
D'une certaine manière, ouais. C'est pas que mes souvenirs, mais c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place quand j'étais ado, finalement, et qui est resté. En fait, quand j'étais ado, je savais pas exactement ce que j'allais faire. Je faisais de la musique, je faisais aussi pas mal d'art plastique. J'étais un peu entre les deux. Et de mes souvenirs, forcément, il y a des choses qui doivent m'inspirer, mais c'est aussi une manière d'être de construire un univers à soi, en fait, qui est resté. Je me souviens, j'avais... Ma chambre, en fait, quand j'avais 15 ans, ressemblait à un atelier, en fait. Je ramassais beaucoup de choses, même des tasses cassées, parce que je me disais que je pouvais les utiliser, par exemple, pour faire des collages, des sculptures. Enfin, j'avais une espèce d'accumulation d'objets comme ça, de tout et n'importe quoi, en fait. Des morceaux de papier journaux, des partitions déchirées, tout était matière, matériel. Et j'ai l'impression qu'en musique, c'était un peu pareil. J'écoute pas un style de musique, j'écoute plein de trucs différents. Alors après, quand même plutôt rétro, j'écoute pas beaucoup de choses très contemporaines, pas très modernes. Ça va entre le classique, le rock, des fois un peu de hip-hop. Enfin, voilà, c'est quand même très assez varié. Et voilà, au niveau des souvenirs d'adolescence, j'ai pas l'impression que je vais piocher dans mon adolescence, en tout cas pour m'inspirer. Enfin, pour ce moment, en tout cas.
Non, mais c'est déjà pas mal, parce que c'est vrai qu'en fait, il y a une richesse musicale, une ouverture, ou en fait, parfois des explorations en fait, qui se passent à ce moment-là. Et tu disais tout à l'heure que tu avais mis en place quelque chose à l'adolescence qui est encore maintenant. C'est-à-dire...
C'est une forme de curiosité, en fait, générale. C'est-à-dire qu'en fait, tout est bon à prendre un peu. C'est une espèce de boulimie aussi, en fait, une forme de boulimie de choses qui me nourrissent et dont j'ai besoin. Par exemple, quand je sais que... Mais ça, c'est quelque chose que ma mère nous avait un peu impliqué... Enfin, qu'elle faisait quand on était petit, elle nous emmenait beaucoup, beaucoup au musée. Et j'ai des souvenirs, par exemple, toute petite, d'aller voir le douanier Rousseau. Enfin, j'ai des images de ces tableaux-là, de voir Monet. Et du coup, ce qui est bizarre, c'est que... Bon, après, j'ai fait des études d'art plastique, mais plutôt, entre guillemets, plutôt art contemporain. Ouais. Et récemment, ça fait une dizaine d'années, j'ai eu un retour vers la peinture, mais vraiment très, très fort. Et en fait, j'ai un lien à ça, ça me parle, ça me... Donc, je suis en recherche tout le temps de peintures bizarres, un peu curieuses, donc pas vraiment contemporaines, plutôt anciennes. Mais du coup, dès que j'ai le temps, par exemple, en tournée, j'essaie d'aller voir les musées des Beaux-Arts en province ou... Partout où je suis, en fait, je veux aller voir les peintures. Donc voilà, je sais pas, c'est une espèce de goût comme ça, de choses qui m'attirent, qui me stimulent, qui m'inspirent aussi. Voilà, parce que c'est vrai que je trouve des idées là-dedans aussi. Voilà.
Bien sûr. Voilà. Et puis c'est normal, ça nourrit, en fait, c'est toujours ça. Ouais. Lire, écouter de la musique.
Lire aussi, ouais.
Voilà, voir, ouais. Des expositions, effectivement, tout ça, ça nourrit, ça participe en fait de l'inspiration, l'imaginaire, ça développe plein de choses. Toi, c'est vrai, Elena, que t'es vachement dans... C'est un peu différent, mais dans la curiosité des gens, t'écoutes les gens, tu les conseilles tout le temps. Mais est-ce que cette façon-là d'être ouvert sur les choses, ça te parle ?
Bah, en fait, de nature, je suis très curieuse. Ça veut dire que on va me dire quelque chose, je vais vouloir à tout prix savoir tout. On va me dire, ah, tu sais pas ce que j'ai appris, je vais vouloir tout savoir tout de suite. Ou si on me dit, ah, j'ai une surprise pour toi, mais il faut que tu attendes, je vais pas vouloir attendre. Je vais dire, non, maintenant que tu m'as dit ça, faut que tu me le dises maintenant, tu en as trop dit, c'est beaucoup trop. Trop de détails, tu dis. Personne ne peut garder un secret avec moi parce que je vais tout faire pour trouver et moi je trouve le secret. Donc ils préfèrent me le dire.
J'adore. Et est-ce que t'as l'impression que si toi aussi tu pas est-ce que t'es tentée toi par exemple d'aller écouter des musiques différentes, de lire des livres, de voir des expos, est-ce que ça te tente tout ça?
Alors vu que j'ai un style de musique très varié, on va dire que j'ai pas trop le temps de me dire si j'essaye ce style, puisque tôt ou tard je vais tomber dessus et je vais avoir une chanson qui va me plaire, puisque je peux pas assez du rock comme de la pop à la classique, comme des musiques qui sont dépressives, mais à des musiques qui sont joyeuses à 100%, mais qui n'ont aucun sens. Par exemple, telles des musiques japonaises qui sont joyeuses juste pour être joyeuses, mais sans queue ni tête.
Iden, ça te parle, ça.
J'ai plein de styles, donc du coup... De toute façon, j'aime toujours découvrir de nouvelles choses.
Ouais.
C'est bien. Et je sais pas, c'est pareil, mais par exemple, il y a des jours où j'ai juste envie de me lever et de partir à l'aventure.
Oh.
De découvrir de nouveaux endroits, comme dans les films, aller trouver dans un monde secret, changer de dimension, trouver une carte au trésor et devoir aller trouver ce qui se passe. Ça m'arrive le matin, je me dis, ah, j'ai tellement envie de partir à l'aventure, mais puis j'ai personne pour le faire et de toute façon, j'ai nulle part où aller. Je vais aller où ? À la boulangerie d'à côté, c'est pas une aventure.
Ah, on sait jamais. Hein.
Tout peut être une aventure.
Tout peut commencer avec la boulangerie d'à côté.
Oui, mais toute seule, c'est un peu triste.
Je sais qu'un peu j'ai un peu cette envie d'aventure des fois, mais quand j'étais petit en tout cas.
Ouais.
Mais depuis que comment dire, vu qu'on peut pas tellement partir à l'aventure à part dans notre imagination. Bon, avant au primaire, j'imaginais beaucoup avec mes amis. Genre on s'inventait des trucs, vu de loin en fait, quand on nous voyait, on tenait des coups dans le vide. Et nous on était dans notre monde, on était là, on avait des épées magiques.
Ah oui,
c'est vraiment les bons moments, c'est trop bien. Mais pendant un moment, j'arrivais plus trop à imaginer. Du coup, je me suis plus dirigée vers le jeu vidéo quand je veux partir à l'aventure avec des amis et tout et tout. Ça me permet un peu de me sortir.
Ça m'appelle.
Aller dans ma bulle. Et du coup, maintenant, quand j'ai envie de faire une aventure, je vais jouer avec des amis sur un jeu un peu fantastique et tout et tout.
Ok, j'adore. Mais, Elena ?
Mais ça me rappelle un truc. Chez moi, au-dessus de ma chambre, il y a une porte sur le plafond. Et j'avais jamais remarqué ça jusqu'à il y a pas longtemps. Et j'ai dit, c'est quoi en fait? Ils m'ont dit, on sait pas. J'ai dit, attends, c'est un portail vers une autre dimension, on sait pas, on n'a pas essayé. Autant il y a un secret caché ou il y a quelqu'un qui vit dedans, on sait pas.
Ouais, ça
en
y
fait,
est, là,
tu crois que c'est Rick et Morty. Hein.
C'est un personnage, une série. D'accord, ok.
Mais j'ai vraiment des trucs comme ça.
Non, mais j'adore parce qu'en fait, du coup, t'as l'imaginaire super
développé
sur tout ça. Elena, on va s'écouter une chanson que t'as programmée. Alors, je vais essayer de. Enfin, peut-être que toi, tu le diras mieux que moi.
Alors, Soredemo wa Utsukishi Tender Rain.
Waouh. Voilà. Ça vient de où
C'est un anime que j'avais vu. Enfin, je crois que c'est parmi les premiers que j'avais vu.
Mm-hmm.
Et j'avais écouté la chanson et j'avais eu des frissons. Mais vraiment, enfin, j'ai vu les paroles et du coup, depuis, je l'aime trop.
D'accord.
Et je la connaissais par cœur, c'est une époque.
D'accord. Eh ben, écoute, on va s'écouter ça. Et puis après, on revient avec Rosemary Stanley, qui est notre invitée aujourd'hui et justement qui nous raconte tout sur son parcours. Allez, ça continue. On s'écoute ça. À tout à l'heure. Tender Rain, je crois que je vais juste garder le titre comme référence parce que c'est trop compliqué à dire. Mais tu connaissais, Elena, toutes les paroles en japonais?
Oui, quand j'étais petite et que j'avais venu découvrir le manga, et ben, je pouvais chanter la chanson par cœur,
okay.
De mémoire, sans okay. Qu'il y ait rien. Et genre, ma mère, elle me regardait bizarrement.
Tu m'étonnes. Ou comment apprendre la nouvelle méthode assimile, par les chansons.
Moi, j'aurais juste ajouté mon oui. Frère qui ne parlait pas pendant très longtemps.
Oui.
A appris le japonais aussi tout seul par les jeux vidéo en fait.
Allez.
Ouais.
Aïdan.
Bah ouais. Franchement, c'est cool.
Ça te permet d'apprendre les jeux vidéo aussi.
Comme quoi, tu peux apprendre les langues de
absolument.
Plusieurs façons.
De pas plusieurs du tout façons. Scolairement.
Et en fait, à une époque, en fait, il y avait des jeux en import qui venaient en import qui n'étaient pas traduits du tout. Et en fait, comme ils comprenaient pas. En fait, je suis la première génération Nintendo. Enfin, première génération, je suis née en 79, donc il a 2 ans de moins que moi. C'est... Donc, il a 30, à peu près 35 ans, tu vois. On a eu la première console quand il avait 6 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, les jeux japonais qui arrivaient en import n'étaient pas traduits. Et du coup, pour essayer de comprendre ce qu'il y avait... Il s'est acheté un dictionnaire.
Allez.
Et il traduisait caractère par caractère. Et puis il s'est acheté une méthode assimile et il a appris tout seul. Et après il parle couramment maintenant. Enfin il a vécu au Japon, il est revenu, voilà. Mais...
Ah oui, donc il a quand même fait.
Non, mais pour dire aussi que les jeux vidéo c'est une culture comme une autre.
Absolument.
Et que on peut arriver par ce biais-là à pas mal de choses aussi.
Mais absolument.
L'école ne sert à rien, on apprend plus
à rien. J'avais jusque là.
Je suis à 100% d'accord.
J'avais jusque là, mais l'école. Ça peut, on peut faire autre chose autrement en tout cas.
Par exemple, j'ai mieux appris de moi-même. Apprendre l'anglais, la meilleure façon, c'est d'écouter un film sans
sous-titres, oui. Carrément. Ouais. C'est sûr que les chansons, les films, tout ce qui peut être les jeux vidéo, voilà, tout ce qui peut être source en fait d'écoute et du coup d'habituer l'oreille et puis du coup de répéter par mimétisme, etc. C'est évident que c'est des super sources d'apprentissage, évidemment. Flavio, on va continuer donc toujours notre interview de Rosemary Stanley qui est avec nous aujourd'hui. Quelle est ta question ?
Comment vous avez décidé de devenir chanteuse ?
J'ai pas vraiment décidé.
On vous a obligé, on vous a mis un couteau sur la gorge.
C'est mignon. Non, mais mon père était chanteur. Mon père est toujours d'ailleurs chanteur musicien de folk américaine. Et en fait, je suis née dans cet environnement-là, c'est-à-dire qu'il chantait à la maison beaucoup, il répétait beaucoup à la maison. Ouais. Et puis un jour, quand j'avais, je sais pas, quand j'étais assez petite, je suis à 7 ou 8 ans, il m'a demandé il m'a appris une chanson en fait. Et puis il trouvait que je chantais bien, donc il m'a fait chanter avec lui sur scène quelques jours après.
À 8 ans ?
Ouais.
Wow.
Donc il y a eu une espèce de déclic à ce moment-là, en fait, où j'ai joué avec lui à l'église américaine à Paris. Et,
très bel environnement.
Voilà, et en fait, du coup, et parce que c'était une espèce de fête, et puis tout le monde redemandait cette chanson que j'avais faite. Je sais pas, j'ai dû la faire 3 ou 4 fois.
Allez!
Puis, parce que c'était bon, et du coup, il y avait quelque chose, voilà, qui est arrivé qui est né à ce moment-là. Donc, c'est pas vraiment une vocation non plus, mais c'est découvrir peut-être que je pouvais chanter, que j'avais une voix, et que j'ai entretenu après. En fait, j'ai pas arrêté. Il m'a transmis aussi son répertoire beaucoup. Un répertoire de manière orale, pas écrite. Et après, quand j'ai eu 15 ans, j'ai voulu rentrer au conservatoire pour avoir un autre type d'apprentissage aussi. Pas que l'apprentissage traditionnel oral, mais aussi apprendre un peu le solfège et la musique classique et l'opéra, parce que c'est aussi une manière de développer la voix qui était différente. Et il y a une vraie technique, une technique de respiration. Et on apprend aussi à gérer son corps et sa voix quand on est malade et ce genre de choses. Voilà, moi, ça m'aide beaucoup dans ces cas-là. Et surtout, c'est des répertoires. Moi, je suis pas née du tout, pas vraiment dans le classique. Donc, c'est vrai que c'était autre chose. Et puis après, j'ai toujours chanté. Et puis, parallèlement au chant classique, il y avait les groupes de blues et de rock que j'ai monté quand j'étais ado. Et voilà, et en parallèle, je faisais des arts plastiques. Donc, j'ai pas tout de suite décidé que j'allais devenir chanteuse. C'est quand j'ai eu, 21, 22, 23 ans, en fait, il y a un moment, je passais des concours pour être prof d'art plastique, puis ça marchait pas, puis j'avais 3-4 petits boulots, puis j'avais 5 groupes différents de musique. Alors moi je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux faire ma vieille? Est-ce que tu veux être prof ou est-ce que tu veux chanter? Parce que je dis peut-être prof, je peux le faire dans 10 ans, chanteuse, dans 10 ans, non. Enfin, c'est très rare les carrières sur le tard, donc je me dis bon... Si vraiment je veux chanter, c'est maintenant, quoi. et puis voilà, je me suis... Donc j'ai décidé à un moment que j'allais faire ça.
D'accord.
Voilà. Mais c'était pas tout de suite, c'était pas évident, même si j'ai toujours fait ça, mais c'était pas une évidence pour moi.
Non, mais justement, c'est ça que je trouve d'autant plus touchant, c'est que c'est vraiment tout ce parcours-là qui a construit et qui finalement t'a amené là, mais c'est parti vraiment en progressif et puis c'est toujours été présent dans ta vie.
Ouais.
Et déjà avec cette transmission de ton père qui est assez touchante, parce que est-ce que lui, il a toujours encouragé justement cet aspect-là chez toi et encore maintenant, en tout cas
Oui, non, lui, c'est son métier aussi. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est très connu, mais qui est très intègre et très dans son répertoire. Et c'est vraiment un personnage et c'est un super chanteur. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a transmis, en fait, d'abord son savoir. Et puis aussi, c'était un bon coach, quoi. Hein, c'était. Voilà.
Non, parce que souvent, en plus, les parents, ils sont un peu réfractaires quand on prend des voies artistiques, parce qu'ils connaissent, et lui peut-être d'autant plus, la difficulté de ces métiers-là.
Oui, sauf que lui, c'est un exemple. Voilà, quand je dis c'est pas quelqu'un de connu, mais c'est marrant parce que ça m'est toujours resté. Donc, ce prof de philo que j'avais en terminale, qui était vraiment très bienveillant en tout cas, je me souvenais toujours d'un. Qui disait il y a réussir sa vie et réussir dans la vie. Et voilà, et j'ai finalement assez bien fait la différence entre les deux. Réussir dans la vie, c'est vraiment avoir une situation, être posé, avoir de l'argent, pouvoir faire voilà, et socialement, voilà, il y a quelque chose de social, il y a aussi une forme de représentation de moi je fais un métier, je suis avocat ou je suis médecin, je suis représenté par un corps de métier, etc. Et puis voilà, qui est très important finalement pour certaines personnes, parce que peut-être qu'ils ont envie que leurs enfants justement évoluent socialement, ils ont envie, voilà. Mais il y a aussi cet autre aspect qui est réussir sa vie. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce que c'est que l'équilibre justement? Peut-être qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Peut-être que si vraiment on a envie toute sa vie de regarder les feuilles tomber, bon ben voilà, ça va peut-être pas nous faire manger non plus. Mais peut-être qu'on peut regarder, on peut les regarder une partie de l'année, puis l'autre partie faire autre chose.
Il y a comme qui dirait un principe de réalité.
Voilà. Non, mais c'est
tout à fait touchant et très vrai, très juste de réfléchir à ces choses-là. On va s'écouter le morceau qu'avait choisi Baptiste, donc de Slimane. Adieu. Si tu veux nous dire un mot là-dessus ou pourquoi elle te plaît cette chanson.
C'est je ne vais pas vous dire tout, mais c'est après la séparation d'un couple.
D'accord. Ne spoil pas effectivement le contenu, mais c'est à peu près c'est ça. Et pourquoi ça te touche?
Parce qu'en fait, il raconte ce qu'il a vécu avec sa femme et il balance tout, mais dans la musique.
Ah, d'accord. Très bien. Et après, en fait, on terminera l'émission donc avec Rosemary Stanley, notre invitée, sur justement la partie de Lewis versus Alice, pour en savoir plus sur ton personnage, justement, dans ce spectacle. On s'écoute ça, donc là, Slimane, adieu.
Depuis toi, je marche seul, sans savoir où je vais. J'ai déposé les armes, mais je ne suis pas en paix. Je fais semblant d'aller mieux, d'avoir tourné la page. Les hommes, ça ne pleure pas, surtout à mon âge. Je passe mes nuits à trinquer à la peine. Je titube dans les rues en criant que je t'aime. J'en vois valser la vie. Puisque tu ne réponds plus à tous mes SOS. Adieu, à jamais, à nos souvenirs sur le port, à nous deux, au passé, à la vie si je m'en sors. Si je m'en sors, 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 tu sais, je vais guérir de tout ce que tu me laisses, de tous tes mensonges. De tes histoires de fesses. Il me faudra du temps, mais je te jure que j'irai mieux. Peux-tu en dire autant quand tu penses à nous deux? Je n'aimerais pas être à ta place quand tu seras en pleurs devant ta glace.
adieu à jamais à nos souvenirs sur le port, à nous deux, au passé, à la vie si je m'en sors. Si je m'en sors, 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 si je m'en sors.
Slimane, adieu. Bah adieu, mais non, reste avec nous les gars. On est là. Alors, Rosemary Stanley, on va continuer et terminer d'ailleurs cette émission que je trouve vraiment, vraiment très, très touchante et importante. Et vraiment, tout ce qui est dit là, on pourrait en parler en plus longtemps, réussir dans la vie et réussir sa vie. J'aurais plein de questions à vous poser à vous, les ados, par rapport à ça, parce que je pense qu'on pourrait en parler assez longuement, mais ça fera l'objet d'une autre émission. Mais en tout cas, déjà, merci beaucoup pour tout ce partage-là, parce que c'est fantastique d'en savoir plus et puis d'entendre tout simplement un parcours raisonné. Ça me touche et ça nous touche en tout cas beaucoup. Donc, La Criée et Masha Makeyev, sa directrice, nous présentent une création, effectivement, qui va s'appeler donc Lewis versus Carol à propos
versus
donc
Alice.
Versus Alice. Depuis le début, à chaque fois, j'ai envie de dire ça. Moi, de toute façon, c'est simple. Ça devait arriver. Donc sur l'auteur de Alice au pays des merveilles. Et c'est vrai qu'en fait, on parle apparemment, on rentre en tout cas avec cette pièce dans l'univers féerique de l'étrange écrivain britannique, un poète énigmatique qui a été célébré par les surréalistes. Donc vraiment, c'est un personnage, en fait, ce Lewis Carroll. Et c'est vrai qu'il est souvent rattaché que à Alice au Pays des Merveilles, mais évidemment, il a fait d'autres choses. Et là, c'est pour ça qu'on vraiment, on a un spectacle qui est sur son personnage à lui. Et dans la troupe, apparemment, donc, il n'y a pas que des comédiens, mais il y a aussi donc, justement des chanteurs, des musiciens. Mais après, on va voir un petit peu comment tout ça se mélange. Et c'est vrai que La Criée le décrit comme une fantaisie théâtrale à la croisée du rêve de l'enfance et de l'extravagance anglaise. C'est vrai que moi, l'extravagance anglaise, ça me fait tout de suite penser à Mary Poppins et ce genre d'univers-là. Mais du coup, nous, on aura la chance de voir tout ça la semaine prochaine. Donc ça, je m'en réjouis. Et donc, Rosemary Stanley, quelle est ta part dans cette présentation, justement ?
Dans la pièce, oui. Du coup. Ben dans la pièce, moi, j'ai un personnage qui est celui de la reine de cœur.
Hey. Voilà.
Alors, évidemment, y a une réinterprétation des personnages. Y a une forme de fidélité aussi au texte de Lewis Carroll, mais il y a une réinterprétation de Masha, un peu aussi personnelle des personnages. Et c'est cette reine de cœur, on retrouve des choses qu'elle peut dire dans les Alice. On retrouve pas forcément, elle chante pas vraiment dans le livre, quoi. Bon, mais c'est un univers qui est foisonnant, on est entre le conscient et l'inconscient, on est entre la réalité et le rêve. Vous allez voir, il y a deux Lewis. Il y a le personnage de Lewis Carroll qui a été créé par son auteur, donc Charles Ludwig Dodson, qui est donc l'auteur, enfin. Comment dire, y a un homme qui existait qui s'appelle Charles, et puis son double qu'il s'est créé, un nom d'auteur, Lewis Carroll. Et c'est Lewis Carroll qui est devenu très célèbre, alors que Charles Ludwig Dodson, en fait, il est resté professeur de mathématiques à Oxford. Et du coup, il y a une espèce de dédoublement de sa personnalité comme ça, justement, qui est figuré par deux personnages.
Ah, c'est génial. Voilà. D'accord. Je savais pas du tout que c'était un pseudonyme.
Si, c'est un pseudonyme. C'est un pseudonyme. Et donc, c'est évidemment un personnage très intéressant, très important dans la littérature et dans les arts en général, parce qu'il a influencé, son influence est extraordinaire, que ce soit dans les arts plastiques, la littérature, et même peut-être la musique, voilà, parce qu'il a sa poésie aussi est très musicale, en fait. Voilà, et bon, alors moi, du
et
coup...
Et toi, là-dedans,
moi,
voilà.
je suis la reine de cœur, mais il se trouve que la reine de cœur chante aussi dans ce spectacle, et j'amène aussi peut-être un regard de la reine de cœur qui est un petit peu différent. Elle est à la fois tyrannique et un peu sadique, elle exige justement des coupages de tête, mais elle est aussi, tout d'un coup, parfois elle bascule, on bascule dans son... dans sa tête ou dans son être un peu plus inconscient, ou tout d'un coup, on la retrouve un peu seule la nuit, où elle se pose des questions. Elle est tout d'un coup sans défense et sans... Voilà, c'est un personnage qui est méchant, mais elle a une double facette, en fait. C'est-à-dire que quand elle chante, elle est plus vraiment la méchante reine. Elle est aussi, finalement, peut-être cette petite fille aussi qui ne sait pas où elle est, qui ne sait pas où elle va et qui... Voilà.
Ça me rappelle,
qui rêve.
Non, mais c'est touchant, ça me rappelle justement le personnage de la sorcière dans Emily Jolie, où justement... Oui. On estime qu'elle est très méchante, qu'elle fait peur, et qu'en fait, elle révèle à quel point elle est fragile. Ou même dans Kirikou, d'ailleurs, la sorcière aussi, elle est méchante, mais en fait, c'est parce qu'elle avait une douleur, la sorcière Karaba. Et toujours pareil, en fait, de trouver les fragilités, les vulnérabilités dans les gens qui sont méchants, permet soit de résorber cette méchanceté, en tout cas, soit de mieux la comprendre, ou d'en comprendre la source, quoi.
C'est les meilleurs méchants.
Les méchants, le plus intéressant, c'est quand, c'est pas quand juste on dit, il est méchant,
ouais.
Point.
Ouais.
C'est plus quand à l'arrière, il y a une histoire, il y a quelque chose à l'arrière. Ce que je regardais avant beaucoup de films ou de dessins animés, où juste, c'est un méchant, faut le battre, parce qu'il est méchant.
Mais c'est plus intéressant quand c'est un méchant qui a une histoire, une motivation, puisqu'on peut plus le comprendre, et c'est encore plus inquiétant quand tu te dis, il n'a pas tort d'une certaine manière. C'est des méchants ou presque comme Thanos dans Avengers, où des fois dans son raisonnement, tu te dis, ah ouais, il a raison quand même, hein, c'est intéressant ce qu'il dit. Et c'est les meilleurs méchants qu'on peut avoir.
Baptiste, tu voulais dire un truc?
Moi, je voulais faire une... En fait, là, j'essaye de faire une musique, j'essaye de créer un morceau
hey.
Avec mon histoire, ce que j'ai vécu, la haine que j'ai, et que j'ai envie de la ressortir dans la musique, la tristesse que j'ai vécue aussi avec mon père, et voilà.
Waouh.
Mon histoire, et en fait, j'arrive pas... En fait, c'est pas que j'arrive pas, c'est que je sais pas quoi commencer, mais en fait, je veux dire, mais en anglais.
Peut-être que vous avez matière à discuter. C'est pas une lourde responsabilité, genre le conseil, mais oui. C'est interpellant quand même.
Déjà, c'est pas mal de savoir. Faut voir comment tu t'exprimes en anglais déjà. Est-ce que t'as des facilités justement en anglais? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile justement d'écrire pour toi en anglais?
Quand je chante en anglais, en fait, j'apprends les mots avant de chanter et après je chante. Et ça me facilite la tâche. Et oui, je pense que j'ai un bon niveau en anglais.
Ça veut dire que tu peux... Je pense que c'est essayer d'écrire en direct en anglais, du coup. Sinon, l'autre chose facile, c'est de... Pas facile, mais tu peux aussi écrire ce que tu veux dire en français et essayer de le traduire en anglais après. En fait, t'as plusieurs façons de le faire, je pense. C'est pas mal d'écrire direct en anglais parce que c'est vrai que l'anglais est très musical et plus direct. En fait, comme langue, ça se prête plus en fait à la musique que le français. Mais parfois c'est bien de se dire tiens, en fait, j'ai envie de parler de ça. Comment je veux dire ça en français? Je le dirais comme ça. En anglais, ça se dit comme ça. Tu vois.
D'ailleurs, est-ce que dans la pièce, les chansons, elles sont en anglais ou en français?
Elles sont en anglais.
Elles sont en anglais, hein, par rapport
toutes.
À.
C'est mieux en anglais. Je trouve que c'est beaucoup plus beau.
En fait, Macha voulait que le spectacle soit en bilingue, qu'on puisse entendre justement la musicalité de l'anglais, que ce soit pas juste une traduction de Lewis. D'abord, c'est très difficile à traduire Lewis Carroll de l'anglais au français. La chasse au Snark est une des œuvres justement qui se passe en plusieurs crises, et c'est vraiment c'est de la poésie traduite. Et il n'y a pas un auteur, il y a eu je ne sais pas combien de dizaines de traductions, il n'y a pas un auteur qui arrive à traduire de la même manière. Donc, et puis comme on est aussi sur un registre absurde, c'est-à-dire que tout ne veut pas dire quelque chose de vraiment réaliste, on est dans un univers poétique, on est dans un univers littéraire très, très poussé, et en plus il invente des mots. Et donc, elle voulait faire entendre aussi cette musicalité, cette poésie de la langue de cet univers anglais. Et du coup, c'est pour ça que le spectacle est en bilingue et que les chansons sont aussi en anglais.
Voilà. Et alors, du coup, toi, tu joues et tu chantes?
Moi, je joue et je chante.
Et la comédie, du coup, là-dedans, comment ça intervient pour toi?
Alors, je suis pas vraiment comédienne.
Justement.
Mais je pense que Macha savait un peu comment me diriger, me dire un peu comment... savait peut-être un petit peu, imaginait déjà un peu comment j'allais être, où est-ce que j'allais être, et ce qui était plus facile pour moi parce que je suis quand même sur le plateau. Il y a des vrais comédiens professionnels qui sortent du conservatoire ou alors qui sont vraiment surdoués, quoi. Ils sont tous vraiment très, très bons. Et ils ont une technique, une vraie technique que moi, je n'ai pas. Voilà. Moi, j'arrive un peu tous les soirs. Je me dis, bon, j'essaie de me retrouver dans l'esprit de la veille, mais c'est difficile. Alors que eux, ils sont quand même très précis, très exact, très en harmonie avec ce qui se passe entre eux. Enfin, voilà. Donc moi, j'admire vraiment, je regarde ça de loin, je me dis, ah, oh, c'est vrai, c'est un autre métier, comédien.
Justement, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que ça te stimule, justement?
Ah bah oui,
ça te tire...
Ah non, mais c'est très stimulant et c'est génial à regarder. Parce que c'est tous les soirs à la fois une précision, une exactitude et puis une capacité quand même à rebondir, à improviser aussi entre eux. Si jamais il y a un petit truc qui a changé, hop, ça... Non, c'est du jonglage aussi, en fait, c'est la voltige.
Bah écoute, on verra ça, nous, la semaine prochaine. Je rappelle donc que Lewis versus Alice, ça joue en tout cas depuis hier, donc du 27 novembre jusqu'au 7 décembre au Théâtre de la Criée, que nous, on a la chance d'y aller la semaine prochaine, donc on a hâte. Après tout ça, merci infiniment, Rosemary Stanley, pour le privilège d'avoir pu justement discuter, en savoir plus et échanger autant.
Bah, merci à vous.
Merci pour les conseils qui seront suivis. et nous, on suivra Baptiste aussi de près par rapport à tout ça. Et vraiment, tu es la bienvenue quand tu veux à Radio Emma, quand tu reviens à Marseille. On sera toujours ravis de t'accueillir ici.
Merci.
On va se quitter avec, pour la petite friandise, une reprise de Mon Oncle que tu nous as proposée, Rosemary, justement, en japonais. Alors, ce n'est pas exactement celle que tu avais en tête, c'est une autre, mais ça s'en rapproche. C'était quoi l'idée, en fait?
Ben, en fait, c'est quand Elena a parlé de chansons japonaises, je me suis dit, oh, tiens, ça me fait penser à ça. Et puis, comme il y a aussi, je sais, Masha est très proche de Tati, de l'univers de Tati. Voilà, c'est quelque chose qu'on aime. Et voilà, c'est une chanson que j'adore.
Et ben, c'est parfait, mais c'est aussi pour ça que je trouve que le clin d'œil pour terminer l'émission est parfait, justement, parce que le lien entre toi, Masha, Tati et hop, le Japon.
Tout, et le
y
Japon,
est.
Voilà.
Tout y est, là, c'est
et puis c'est
ça.
Joyeux.
Exactement. Donc on s'écoute ça. Merci encore, Rosemary Stanley, d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à vous, les ados. Merci à la Criée d'avoir permis cette rencontre. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Au revoir.
Peace out.
優しい僕のおじさん、背高のこのおじさん、天気の良い日も雨傘大事に持って歩く。日の良い僕のおじさん、背高のこのおじさん、いつでもパイプをくわえたおじさん大好きさ。下町のアパートで屋根裏の暮らし、朝寝坊で夜更かしして暮らす。 野良犬やら野良猫なら皆友達だけど、金儲けや自動車など縁のない人と僕のおじさん、のんきな上慌て者だから年中しくじり、お嫁さんの来てもない。 けれども僕のおじさん、それには一向平気。毎日僕と一緒に楽しく遊んでくれる。気のいい僕のおじさん、背高のこのおじさん、いつでもパイプをくわえたおじさん大好きさ。 けれども僕のおじさんそれには一個平気毎日僕と一緒に楽しく遊んでくれる気のいい僕のおじさん背高のっぽのおじさんいつでもパイプをくわえたおじさん大好きさ